Gloire au Seigneur. Nous sommes à Matthieu chapitre 6. Nous nous étions arrêtés au verset 25 l'autre jour, c'est-à-dire mercredi dernier. Et nous poursuivons la série d'enseignements sur le royaume de Dieu, plus particulièrement sur l'éthique du royaume, ou bien sur la charte du royaume, la constitution du royaume, la philosophie du royaume, l'essence du royaume de Dieu, que à travers eh bien, le sermon sur la montagne, frères et sœurs, qui couvre les chapitres 5 à 7 de l'Évangile selon saint Matthieu. Et chemin faisant, nous étions au verset 25 l'autre jour, où Jésus enseigne ses disciples de ne pas s'inquiéter pour leur vie. Et c'est pourquoi je vous dis, Matthieu 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Nous avions considéré ce verset vers la deuxième moitié du temps d'étude, étant donné que la toute première partie a été consacrée à l'étude des versets 22 à 24, à la gloire de Dieu. Je vous avais dit au sujet du verset 25 que les mots pour votre vie dans « ne vous inquiétez pas pour votre vie », eh bien, renvoie à la vie en général, à la vie de l'individu, à la vie de l'enfant de Dieu, du citoyen du royaume, dans ses différents aspects, c'est-à-dire l'aspect physique de cette vie-là, l'aspect mental de cette vie-là, l'aspect émotionnel et spirituel de cette vie-là. Jésus dit que l'inquiétude au sujet de la vie, eh bien, ce n'est pas une option pour l'enfant du royaume, ou du moins pour tous ceux qui aspirent à recevoir son royaume, à intégrer son royaume. Et je vous ai déjà expliqué que lorsque Jésus délivrait ou bien livrait ce discours, le sermon sur la montagne, il avait devant lui un auditoire composé tant de gens qui ont déjà reçu le royaume, c'est-à-dire les disciples, et également ceux qui ne l'avaient pas reçu encore, y compris les scribes et les pharisiens. Il écoutait minutieusement les enseignements du Christ. Et alors, à chaque fois que Jésus eh bien, s'adresse à son auditoire, il arrive parfois qu'il s'adresse à tous les deux en même temps. Et la plupart du temps, et il s'adresse uniquement aux citoyens du royaume. Parfois, en s'adressant aux citoyens du royaume, il est en train de dire à ceux qui ne sont pas encore membres du royaume, qui n'ont pas encore intégré le royaume, que si vous voulez intégrer le royaume, voilà ce qu'il faut faire. Voilà le choix à faire. Et parfois aussi, il s'adresse, il adresse une portion, un segment de son enseignement à ceux qui sont uniquement dans le royaume pour leur dire, vous devez faire ça comme ça. Vous devez voir cela comme ça, étant donné que vous êtes déjà citoyen. Donc, à chacun de recevoir ce qui lui appartient dans ce qu'il avait à livrer, eh bien, comme enseignement. Alors, c'est très important de comprendre cela. Je vous avais dit que l'inquiétude, c'est par nature essentiellement le contraire du contentement. Le remède à l'inquiétude, c'est le contentement. C'est d'être satisfait de ce que Dieu nous donne et de ce que Dieu ne nous donne pas parce que Dieu est souverain. Les gens qui parlent créole, vous savez ce qu'ils disent comme moi, autant que moi. Bon Dieu, grand monde, il fait ça, lui. Et une attitude de contentement, eh bien, et revient à comprendre cela, à l'accepter et à vivre avec cela. Dieu guérit quand il guérit, il ne le guérit pas quand il ne le guérit pas. Dieu pourvoit quand il pourvoit, il ne pourvoit pas quand il ne pourvoit pas, eh bien, qu'il pourvoie, qu'il guérisse, qu'il donne ou qu'il ne donne pas, eh bien, le peuple de Dieu, le citoyen du royaume est appelé, eh bien, à accepter la volonté de Dieu pour sa vie et vivre sa vie comme si, eh bien, il n'y avait aucune privation, aucun manque. Et Paul rejoint le Christ dans cet enseignement quand, dans Philippiens chapitre 4, au verset 11 à 12, il dira, en prenant sa vie comme exemple, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Alors, je vous avais dit que l'une des premières raisons pour lesquelles le citoyen du royaume, l'enfant de Dieu, n'a pas à s'inquiéter de rien, mais c'est parce qu'il est fils du royaume. Elle est fille du royaume. Il est enfant de Dieu. Elle est enfant de Dieu. Dieu est son père. Quand on a un père riche, un père pourvoyeur, un père d'amour, un père généreux, et puis un père tout-puissant, eh bien, il n'y a pas lieu, eh bien, de vivre dans l'inquiétude, dans la mesure où ce père fidèle est tout aussi puissant pour donner ce qu'il lui plaît de donner à ses enfants, eh bien, en tout temps, en toutes circonstances, en toute occasion. Rien ne peut l'empêcher d'accomplir ses desseins pour ses enfants. Dans la mesure où il ne nous donne pas quelque chose, eh bien, c'est parce que, suivant sa sagesse, suivant son omniscience, suivant sa science, cela nous convient mieux qu'il ne nous le donne pas. Dieu, en général, ou dans un temps, pendant le temps où nous ne l'avons pas. Alors, est bien important de se rappeler de cela. Et l'autre raison pour laquelle l'inquiétude, eh bien, ne devrait pas avoir sa place dans la vie du citoyen du royaume ou de la citoyenne du royaume, eh bien, c'est parce que notre Dieu, il a tout pouvoir. Il est souverain, il contrôle tout. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. 1 Chronique 29, le verset 12. Nous avions vu qu'une autre raison pour laquelle nous n'avons pas besoin, eh bien, l'enfant de Dieu, l'être humain, le citoyen du royaume en particulier, ne devrait pas avoir de crainte pour sa vie, ne devrait s'inquiéter pour sa vie, de quoi il mangera, de quoi il sera nourri, ou bien de quoi il sera vêtu, comme le Christ le dit au verset 25. Eh bien, c'est parce que notre Dieu est un grand pourvoyeur. Et mon Dieu, dit Saint Paul, Philippiens 4, 19, pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ, frères et sœurs. Maintenant, en entendant Jésus parler d'inquiétude au verset 25, et la question que vous pourriez être tenté de vous poser, c'est la question de dire, qu'est-ce qui fait que Jésus parle d'inquiétude ici? Dans un contexte comme cela, quel est le rapport avec l'inquiétude? Jésus a parlé de l'importance de rechercher la gloire de Dieu plutôt que la gloire humaine, de rechercher la récompense que Dieu donne plutôt que de s'atteler à rechercher la récompense, l'honneur de la part des hommes, que ce soit quand nous faisons l'aumône, que ce soit quand nous prions. Ça, c'était à partir du chapitre 6, les versets 1 et à 19, on pourrait dire jusqu'au verset 21 même, jusqu'au verset 19, oui. Et dans un autre temps, Jésus, il va adresser la question de l'attachement, non pas cette fois aux honneurs humains, à la gloire humaine, mais il va adresser la question de l'attachement au bien matériel. On a regardé tout cela, 19, 20, 21. Et il va montrer en quoi c'est un problème. Et pourquoi c'est un problème? Il parlera de l'importance de s'attacher aux choses d'en haut, aux choses du ciel plutôt qu'à celles de la terre, 19-20, verset 21. Et alors, entre toutes ces choses-là, le fait de rechercher et la gloire des hommes, les honneurs des hommes ou les biens matériels au détriment des biens spirituels, entre toutes ces choses-là et le verset 25, l'enfant de Dieu qui lit sa Bible attentivement dans ses lectures personnelles, individuelles ou comme nous le faisons en ce moment ensemble dans une lecture collective et suivie de méditation et d'études, quel est le rapport entre les attitudes que Jésus dénonce dans ces versets précédents-là et ce qu'il commence à dire au verset 25, en particulier l'enseignement qu'il donne sur le contentement ou bien sur le refus de l'inquiétude? Alors, le rapport est quand même très clair. Le rapport qu'il y a entre ce qu'il aborde maintenant ici, à partir du verset 25, et ce qu'il a dit auparavant, le rapport est évident, frères et sœurs, mes bien-aimés. C'est que selon Jésus, c'est l'inquiétude, hein, qui habite les hommes par rapport au péché en particulier, qui pousse les hommes, en l'occurrence les scribes et les pharisiens, mais au-delà des scribes et les pharisiens, tous les êtres humains, vous l'aurez compris, à rechercher la gloire et les honneurs des hommes au détriment de la gloire de Dieu. Ce qui fait que Jésus parle d'inquiétude après avoir dénoncé toute attitude consistant à rechercher les honneurs et la gloire des hommes, après avoir dénoncé de la part des scribes et des pharisiens, et ultimement de la part de tous les êtres humains, vous le savez. Et il parle maintenant d'inquiétude parce que dans sa compréhension, dans sa sagesse, Jésus comprend très bien que c'est une question d'inquiétude. C'est la peur qui nous anime depuis le jardin d'Éden, notre vie. Et qui nous amène à faire dépendre parfois notre vie, eh bien, de ces choses-là qu'il a dénoncées tout à l'heure. Et pour Jésus, c'est l'inquiétude qui pousse les êtres humains, les humains, les hommes, les scribes et les pharisiens, à rechercher les trésors ou bien les richesses de la terre, les biens d'en bas. Eh bien, au lieu de rechercher la présence de Dieu, ou bien les biens d'en haut, frères et sœurs. Incidemment, pour contrer l'inquiétude au sujet de la nourriture, parce qu'il a nommé l'inquiétude au sujet de la nourriture au verset 25, quand il dit au verset 25, suivez bien, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc, ce que Jésus fait, il nomme deux poches. Hein, deux sujets d'inquiétude. Mais ça a toujours été cela pour vous et pour tout le monde, pour le monde. C'est la nourriture, qu'est-ce qu'on mange? Bon, évidemment, une autre poche d'inquiétude, un autre sujet d'inquiétude là aussi, c'est le logement. Mais Jésus ne parle pas de logement ici, mais n'allez pas croire que le logement n'est pas là. Ne vous inquiétez, la vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Donc, il mentionne deux principaux sujets d'inquiétude qui ont toujours habité l'être humain, qui ont toujours tout près des préoccupations de l'être humain. Cela, depuis le jardin d'Éden. N'oubliez pas que c'est pour une question de nourriture, eh bien, que nous sommes, où est-ce que nous sommes aujourd'hui? N'oubliez pas, hein? Et le péché a commencé par rapport à la nourriture. Vous vous rappelez, c'est sur le sujet de la nourriture que Adam et Ève ont chuté. Pour contrer l'inquiétude au sujet, incidemment, au sujet de la nourriture, disais-je, Jésus se sert au verset 26 de l'exemple des oiseaux du ciel. Vous connaissez très bien ce passage. Et je pense que je médite plus aujourd'hui que d'étudier comme tel la parole. Okay? Et verset 26, regardez les oiseaux du ciel, verset 26, Matthieu chapitre 6, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux, c'est-à-dire beaucoup plus que les oiseaux. Jésus, en se servant de l'exemple des oiseaux du ciel, pour nous enseigner au contentement, à développer une attitude de contentement plutôt qu'une attitude d'inquiétude, de peur, de crainte, de panique devant les problèmes de la vie. Il attire l'attention de ses disciples sur le fait que les oiseaux ne travaillent pas. Les oiseaux n'ont pas recours à des procédés humains complexes comme la prévention, comme l'agriculture, comme le stockage pour obtenir leur nourriture. C'est ce que Jésus appelle « ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. » Et pourtant, dit Jésus, « votre Père céleste les nourrit. Il pourvoit à leur subsistance, à ce qui est nécessaire pour la conservation de leur vie en tant que créature de Dieu. » Job chapitre 39, verset 3, nous fait comprendre que Dieu prépare au corbeau sa pâture quand ses petits crient vers lui, vers Dieu. Jésus dit, ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Comme d'habitude, poser la question, c'est y répondre. Jésus affirme à travers cette illustration, cet exemple, cette question rhétorique que les oiseaux reçoivent de leur Créateur, notre Créateur à nous aussi, le Père Céleste, ce qui est nécessaire à leur survie. Ainsi donc, dit Jésus, ce qui vaut pour les oiseaux que nous savons qui représentent les plus faibles des créatures, vaut à plus forte raison pour les êtres humains, frères et sœurs. À chaque fois que l'inquiétude veut nous assaillir, après avoir, entamé la démarche de la prière, disons-nous que si Dieu prend soin des fourmis, s'il prend soin des oiseaux, des lézards, il prendra à plus forte raison soin de nous. Autrement dit, selon cette illustration que Jésus a utilisée, Dieu prendra davantage soin de ceux qui sont créés à son image, de toute la créature humaine et particulièrement de ceux qui, comme vous et moi, sont devenus ses enfants en Jésus-Christ, sont devenus citoyens et citoyennes de son royaume en Jésus-Christ, frères et sœurs. La pensée de Jésus mérite d'être considérée ce soir. Aucun oiseau n'est créé à l'image de Dieu. Sur le plan naturel, ce n'est pas possible que Dieu prenne soin des oiseaux et abandonne l'humain. Sur un plan purement naturel, ce n'est pas normal. Que dire sur un plan purement spirituel, c'est-à-dire pour ce qui concerne ses enfants bien-aimés en Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à son royaume éternel. Jésus dit, l'inquiétude n'a pas sa place dans son royaume. Ceux qui sont recréés à l'image du Christ, Dieu pourvoira à plus forte raison à leurs besoins. Aucun oiseau n'a reçu la promesse d'être héritier avec Jésus-Christ dans l'éternité. C'est les enfants du royaume qui ont reçu cette promesse, cette garantie-là. Et alors, si Dieu prend soin des oiseaux, à plus forte raison, prendra-t-il soin de ceux qui partagent le royaume de son fils, qui sont co-héritiers de son fils. Autrement dit, frères et sœurs, Jésus nous appelle à ne pas laisser de la place à l'inquiétude dans notre vie, dans notre cœur. Oui, je comprends. Il y a des fois, les situations paraissent tellement insurmontables. Les difficultés, les épreuves, les problèmes paraissent tellement insurmontables. Et il pourrait avoir quelques secondes d'inquiétude. Ce n'est pas évident. Okay? Et l'être humain que nous sommes doit commencer par le reconnaître pour ne pas se laisser prendre au même piège auquel s'était laissé prendre l'apôtre Pierre. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ dit « ne vous inquiétez de rien », alors c'est possible de ne pas s'inquiéter de rien. Ce sera toujours avec la force, la puissance, la présence du Saint-Esprit de Dieu que ce sera possible de ne pas s'inquiéter. Eh bien, c'est aussi à cela que sert la prière du chrétien, que servent les prières du chrétien. C'est que Dieu nous fasse la grâce de persévérer dans le contentement, de persévérer dans la joie, de persévérer, eh bien, dans la certitude, dans l'assurance, dans la confiance qu'il prendra soin de nous dans la mesure où il prend soin de créatures vraiment insignifiantes par rapport à nous-mêmes, à considérer, à comparer à nous-mêmes. La créature de Dieu n'est pas insignifiante dans la mesure que Dieu a fait chaque chose et bien pour un but, mais par rapport à la valeur que Dieu nous accorde, que Dieu nous porte en tant que créature à son image, d'une part, et d'autre part, et surtout en tant qu'enfant de Dieu, en tant que recréé à l'image de son fils, eh bien, à comparer à nous, la créature des oiseaux, que représentent les oiseaux ou d'autres créatures, est insignifiante. Mais il arrive que cette créature insignifiante, qui n'a pas de place qui est préparée pour lui dans le ciel, ce n'est pas pour les oiseaux, ce n'est pas aux oiseaux que Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est aux chrétiens, c'est aux enfants du royaume, c'est aux citoyens du royaume que Dieu a promis de telles choses. Et ne voilà-t-il pas que, malgré le fait que ce n'est pas à eux que Dieu a promis de telles choses, Dieu prend soin d'eux. Eh bien, ou bien il est père, ou bien il ne l'est pas, ou bien nous sommes fils et filles, ou bien nous ne le sommes pas. Et si nous le sommes, dit Jésus, pourquoi avons-nous besoin de nous inquiéter, frères et sœurs? Gloire à notre Dieu. Verset 27, l'oratoire Peuple du Seigneur, chers amis internautes, chers amis visiteurs, Matthieu chapitre 6, verset 27. Maintenant, je fais des considérations concernant le verset 26 et passons maintenant au verset 27 dans la grâce du Seigneur. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? À qui de vous? Jésus continue d'argumenter, ok? Et il continue d'expliquer pourquoi il dit ne vous inquiétez de rien. Il continue d'expliquer pourquoi. C'est important. Et qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Même chose. Poser la question, c'est y répondre. Il questionne, mais en fait, il affirme. Il interroge, mais en réalité, rhétoriquement, il affirme. Il dit, arrêtez de vous inquiéter, ne vous inquiétez pas, parce que personne, aucun d'entre vous, ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Nous avions déjà parlé de coudée quand j'enseignais sur l'Apocalypse. La coudée, c'est une unité de mesure au temps où Jésus parlait au temps où Jésus enseignait. La coudée représentait une unité de mesure. Eh bien, frères et sœurs, vous aurez compris, eh bien, la démarche de Jésus au verset 27. Ah, Jésus voit à travers la recherche de la gloire humaine, Jésus voit à travers la recherche des honneurs humains, quand les gens qui faisaient l'aumône le faisaient à vive voix de façon spectaculaire, quand les gens qui priaient le faisaient de façon spectaculaire pour être remarqués par les hommes, quand les scribes et les pharisiens et d'autres qui étaient avec eux, qui s'associaient avec eux, faisaient une course effrénée vers les biens matériels au détriment de la gloire de Dieu, au détriment de la présence de Dieu, Jésus voit à travers ce penchant, cette attitude, ce comportement, à travers cette démarche, Jésus voit, eh bien, à travers l'attachement aux choses de la terre, une préoccupation pour la conservation de la vie. Vous et moi qui étudions le discours aujourd'hui, de plus de 2000 ans plus tard, nous ne sommes pas capables de savoir si les gens qui avaient de telles attitudes étaient conscients, si oui, dans quelle mesure, que ce qu'ils visaient avant tout, c'était de conserver leur vie. Hein. Tout ce que les hommes font, la plupart du temps, c'est dans un souci de conservation de sa vie. C'est la raison pour laquelle Jésus parle ici de qui peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Voyez-vous, je tenais à vous l'expliquer de la même manière que je tenais à vous expliquer pourquoi Jésus parle d'inquiétude après avoir parlé de ces choses-là, mais de la même manière, en parlant d'inquiétude, pourquoi il parle de vie ici, de conserver la vie, pourquoi il parle d'espérance de vie ici, pourquoi il parle de durée de la vie et de qui a le pouvoir sur la durée de la vie. Eh bien, je reprends ce que je viens de dire, c'est parce que dans sa compréhension divine, hein, dans sa sagesse divine, il sait très bien que les gens qui se livrent, eh bien, à l'attachement au bien matériel, à la recherche de la gloire humaine, en réalité, ce qu'ils visent par-delà de cet attachement, de cette attitude, eh bien, c'est de préserver leur vie, c'est de conserver leur vie dans l'existence. Voyez-vous? Et alors, Jésus est en train de leur dire que, eh bien, cette attitude ne mène à rien dans la mesure où tu n'as pas le pouvoir sur la durée de ta vie. Jésus fait cette remarque parce qu'il sait qu'en s'inquiétant pour sa nourriture, en s'inquiétant pour ses vêtements, en s'inquiétant pour la gloire, en s'inquiétant pour les honneurs, en s'inquiétant pour paraître plus grand que les autres, plus honorable que les autres, l'être humain s'inquiète avant tout pour sa vie qu'il aime tellement, ce qui est normal, on ne peut pas être contre la vertu, sa vie que l'être humain aime tellement, et cette vie qui lui semble toujours dangereusement proche de sa fin, frères et sœurs. Jésus va dire plus loin que, eh bien, cette recherche, ou bien cette quête, cette course est vaine. Et non seulement cette course est vaine pour la raison que je viens de vous dire et que Jésus a évoqué, que je vais continuer à vous dire, non seulement cette course, cette recherche est vaine, mais également, cette recherche est païenne. Elle est païenne, on y reviendra. Cette recherche, cette quête est païenne par rapport à ce que cette quête révèle de la connaissance de ceux qui se livrent à cette quête-là de Dieu. Cette quête est vaine par rapport à ce qu'il montre au sujet de la compréhension de ces gens de Dieu. Ces gens voient Dieu comme les païens le voient. En ayant cet attachement-là, en s'inquiétant de cette façon-là, eh bien, ils voient Dieu comme les païens le font. Ils considèrent Dieu comme les païens le considèrent. De la même manière qu'ils étaient arrivés à des points où ils priaient comme les païens priaient, selon leur connaissance de Dieu, eux les païens, eh bien, en s'inquiétant, eh bien, ils font ce que les païens font, frères et sœurs. Ce que Jésus est en train de dire, ben, on y reviendra, mais c'est que s'inquiéter, c'est ne pas connaître Dieu. S'inquiéter, c'est ne pas comprendre Dieu. S'inquiéter, c'est ne pas saisir l'essence de Dieu, la nature de Dieu, le pouvoir de Dieu, la sagesse, la fidélité, la bonté et l'amour de Dieu. Frères et sœurs, refermons la parenthèse, mais nous y reviendrons et comme promis. Frères et sœurs, nous le savons, vous et moi, la culture dans laquelle nous vivons est caractérisée par un désir sans cesse croissant d'augmenter la durée de la vie. Nous le savons, vous et moi, par tous les moyens éthiquement bons ou moins bons, eh bien, les sciences modernes font des progrès énormes qui vont dans le sens, eh bien, de conserver la vie. Ils parlent même de reproduire la vie. Ils parlent même de réplique de la vie humaine. Dans certains pays où la science est très avancée, le Japon, la Chine, peut-être les États-Unis d'Amérique, on dit même que c'est le souffle seulement qu'ils n'arrivent pas à donner encore. Toutes les questions de intelligence artificielle, de machine, etc., ultimement, toutes ces choses visent à prolonger la vie sur Terre. Là là. Nous faisons des exercices. Nous mangeons sainement. Il y en a qui font des exercices plus régulièrement que d'autres. Moi, je suis vraiment paresseux par rapport aux exercices. Je ne suis vraiment pas un modèle pour les fidèles en matière d'exercice, comment ça s'appelle, exercice physique, là. J'en fais pas assez, je trouve, d'après ce que je lis dans la littérature. Nous faisons des exercices. Nous mangeons sainement, vous et moi. Nous complétons notre alimentation avec des vitamines et des minéraux. Nous subissons des examens médicaux réguliers par la grâce du Seigneur. Et nous faisons beaucoup d'autres choses encore. Tout ceci, dans quel but selon vous? Dans le but d'ajouter quelques années à notre vie. Et en cela, il n'y a rien de mal, hein? Et comme je le disais dimanche par rapport au sujet que je traitais, il n'y a rien de mal à faire toutes ces choses pour conserver sa vie. Hein? Il n'y a rien de mal là. Ce qui fait problème, c'est le fait de vivre dans l'inquiétude quand un ou plusieurs des éléments que j'ai cités là, que j'ai nommés, que je vais trouver, ou que je n'ai même pas donné, un de ces éléments-là qui contribue à la vie physique arrive à nous manquer, frères et sœurs. Jésus est en train de dire que, il est en train de montrer, il est en train d'enseigner, d'expliquer que l'inquiétude, c'est un réel problème pour les enfants du royaume en particulier. Puisque l'inquiétude, selon le verset 27, ne change rien à la durée de la vie d'une personne. Il y a une autre raison que Jésus n'a même pas donnée ici. Pourquoi l'inquiétude est un problème? L'inquiétude, mais produit des maladies. L'inquiétude produit des maladies. L'inquiétude est source de stress. L'inquiétude alimente le stress. Dans certains cas, l'inquiétude alimente la dépression. Il y a des dépressions naturelles, puis Dieu nous en préserve, mais il y a des dépressions qui sont dues à un extrême souci, à une extrême préoccupation, à de l'inquiétude, à la peur, à la crainte de lendemain. Alors, ce n'est pas seulement que c'est inutile parce que ça ne change pas la durée de la vie de Sergo, non? Mais c'est aussi parce que ça fait beaucoup de problèmes encore, ça amène de la maladie. Maintenant, nous allons rester dans la raison que Jésus donne. Pourquoi l'inquiétude fait-elle problème, dit Jésus? Parce que, eh bien, c'est Dieu qui fixe les limites à la vie de chaque individu, de chaque citoyen du royaume, de chaque citoyenne du royaume. C'est Dieu qui fixe les limites. Si Dieu me dit, c'est que tu vivras quoi? Je ne sais pas, 55 ans, j'en ai, ok. Si Dieu dit, c'est que tu vivras 60 ans, c'est 60 ans que tu vivras Sergo. L'inquiétude ne va pas faire en sorte que tu vives 80 ans. Ça ne veut pas dire que nous allons négliger notre santé, notre corps, notre alimentation ou tout ce que Dieu, dans sa grâce commune, donne pour que nous conservions notre existence. On va négliger nos médicaments, on va négliger nos rendez-vous médicaux. Non, ça ne veut pas dire ça, loin de là. Au contraire, ça serait péché. Mais ce que je veux dire, c'est que quand nous nous inquiétons, eh bien, nous n'ajoutons pas la vie à notre vie. Même une seconde, même une minute, même 10 minutes, même encore une journée, bon, voilà. On ne peut pas ajouter même la plus petite unité de temps au temps que Dieu nous impartit pour l'existence ou dans l'existence. Si c'est 80, c'est 80. Si c'est 70, c'est 70. Si c'est 3 ans, c'est 3 ans. Si c'est 5 ans, c'est 5 ans. Si c'est 10 ans, c'est 10 ans. Vous me comprenez? Très bien, frères et sœurs. Ah, les exercices sont bons. Une saine alimentation est bonne. De bonnes pratiques en éducation physique, ah, ne faites pas comme votre frère là. C'est toujours bon. Et ceux qui sont sportifs, très sportifs, de bonnes marches, du vélo, tout ce que vous pouvez faire comme aîné ou bien comme jeune homme, comme jeune femme, c'est bon. Hein? Ça relève des soins que nous sommes appelés à donner à notre corps. Dieu nous appelle à prendre soin du corps. On va continuer à le faire. Tant que le Seigneur nous en fera la grâce, c'est avantageux. Mais Jésus nous dit que lorsque nous adonnons à ces choses-là de manière déraisonnable, en essayant de conserver la vie, ça change. C'est juste le normal qu'il faut faire, il ne faut pas faire l'anormal. L'anormal consiste à s'inquiéter pour ces choses-là. Bon. Est-ce que vous avez l'habitude d'entendre des gens parler de régime alimentaire? Ce n'est pas forcer le texte de considérer cela aussi ici. Hein. Le régime, c'est bon, mais vous ne le savez peut-être pas, ou moi, en tout cas, moi, ça fait pas longtemps que je le suis. J'ai beaucoup lu sur le sujet. Des gens qui font des régimes à l'extrême. Il y a des gens qui font des régimes alimentaires à l'extrême. C'est des gens qui s'inquiètent pour leur vie d'une autre façon. Hein. Parfois, quand on est dans l'abondance, on va s'inquiéter d'autres façons. Et dans d'autres pays où les gens ne sont pas dans l'abondance, ils vont s'inquiéter d'autres façons. Il y en a qui vont manger beaucoup, 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 beaucoup. Et là, c'est un problème. Ils s'inquiètent. Ils font mal à leur corps physique. Parce qu'ils n'ont pas de maîtrise de soi par rapport à leur façon de manger ou à ce qu'ils mangent, mettons. Mais l'inverse est aussi vrai. Dans les deux cas, quand il y a des excès, c'est l'inquiétude qui est à la base de ces excès-là et c'est toujours dans un souci de conservation de la vie. Jésus dit ce soir à l'un et l'autre des gens qui se situent à l'un ou l'autre bout, à l'une ou l'autre des deux extrêmes, que ça n'emmène rien en ce qui a trait à la durée de la vie. Ce que Dieu a décrété que vous avez comme durée de vie, mais c'est ce que vous avez, c'est ce que vous aurez. Et bien voilà, bien important de comprendre cela, frères et sœurs. Le don de la vie, c'est un don de Dieu qu'on ne peut pas augmenter ni diminuer, peu importe qu'on s'inquiète ou qu'on ne s'inquiète pas. Ce qu'il faut, très important, ce qu'il faut, c'est d'utiliser la vie selon les desseins de Dieu, selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. D'utiliser sa vie pour des raisons spirituelles et célestes, et non pour des raisons égoïstes, pour des raisons terrestres. La préoccupation de l'enfant du royaume ou des enfants du royaume, dit Jésus à la lumière du verset 25 au verset 27, devrait être d'obéir à Dieu, de rechercher la présence de Dieu, de rechercher l'intimité de Dieu, de rechercher la communion de Dieu, d'honorer Dieu, de plaire à Dieu, de glorifier Dieu, de servir Dieu et de laisser tout le reste, les soucis, les problèmes, les maladies, les calamités, les persécutions, les privations. Laissez le reste entre les mains de Dieu, toi, vie. Réjouis-toi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Soyez content, Jésus. Parce que de toute façon, là, si Sergo est malade, l'Église va prier pour Sergo. Vous allez prier pour Sergo, je vous connais. Vous êtes des hommes et des femmes de prière. Moi, je dis toujours à mes collègues que je suis à la tête d'une Église qui prie. Moi, quand j'entends dans des occasions de retraite pastorale ou n'importe où, d'autres collègues qui se plaignent, on ne va pas venir, les gens ne se présentent pas. Ce n'est pas mon cas à l'oratoire. On a peut-être d'autres problèmes, mais non. Le peuple de Dieu est en prière. Alors, tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire que si vous priez pour moi, parce que je suis malade, et je sens que le Seigneur me dit, Sergo, je ne veux pas te guérir maintenant, ou je ne veux pas te guérir tout court, ou que j'ai une autre épreuve, vous priez pour moi, peu importe la nature de l'épreuve. Vous savez, c'est quoi le contentement? Le contentement consiste à dire que cette chose-là que Dieu ne me donne pas, il peut me la donner. Je le disais l'autre jour en prédication, il peut me la donner. Bon, regardez bien, on s'assoit, on raisonne. Nous sommes des gens qui savons raisonner, et qui savent raisonner plutôt. Regardez bien, Dieu est capable de me donner ça. Il m'a déjà donné plus que ça. Il n'a pas de limite. Il ne me le donne pas. Il est sage. Eh bien, je vis. J'accepte. Nous devrions aussi être contents quand Dieu ne nous donne pas quelque chose que nous aimerions qu'il nous donne. Pourquoi? Parce que quand il ne nous le donne pas, mais c'est ça qui est bon pour nous dans le moment. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de croire que c'est ce qui est bon pour nous dans le moment. Mais tu es un homme de Dieu, tu es une femme de Dieu, tu es en prière. Tu ne pratiques pas un péché connu dans ta vie. Parce que c'est le péché qui peut faire obstacle à l'exaucement de ta prière. S'il n'y a pas un péché connu que tu pratiques, puis tu pries pour quelque chose que tu ne l'as pas, ça doit être pour ton bien que tu ne l'as pas. Et c'est ça le contentement, c'est le fait de reconnaître, bon, ça veut dire, Dieu me donne mieux. Il peut être en train aussi de m'éprouver, il peut être en train de me former aussi, il finira par me le donner. Mais dans l'intervalle, c'est ce que je dois dire, puis ça revient au même. S'il est en train de me former, qu'il ne me le donne pas, ou qu'il ne me le donne pas du tout. C'est comme les enfants. Quand les enfants sont jeunes, nous leur parlons de comment ils doivent se comporter et pour le futur, par rapport à leurs études, par rapport à des contacts, par rapport à servir Dieu. C'est difficile pour eux de voir comment notre choix est meilleur que leur choix quand ils sont très, très jeunes. Et c'est très difficile parce qu'ils ne sont pas encore devant l'évidence. Mais quand ils deviennent plus grands, dans la plupart des cas, ils commencent à vous dire « Papa, papi, t'avais raison, mamie, t'avais raison. » Là, ils sont devant, ils voient. Et mais c'est la même chose, oui. Si bon Dieu t'a fort, ouais, pour qu'il pas botter le bagage, ou t'as saisi, oui. Ou t'as tombé, ou t'as pas adoré, bon Dieu, plus mal que je vais pas adorer le joueur, oui. C'est-à-dire, il t'a ouvert un rideau, c'est go, rentre. Viens voir pourquoi je t'ai pas donné telle affaire que t'as demandé. Ou t'as saisi, oui. Vous seriez étonné de voir. Ah, Seigneur, c'est pour ça que tu me l'as pas donné. C'est pour ça que tu m'as appris telle affaire, là. Ah, et c'est alors que tu as recommencé à servir mon Dieu encore. Bref, c'est pour vous dire que, eh bien, ne vous inquiétez de rien, voilà. Tout ça, c'est pour vous dire, ne vous inquiétez de rien, ok? Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Maintenant, enchaînons avec les versets 28 à 30, toujours de Matthieu, chapitre 6. Et regardez avec nous, avec votre à la maison, Matthieu chapitre 6, verset 28 à 30. Enchaînons. Verset 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lis des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Verset 30. Déduction, hein? Déduction, c'est comme ça qu'il parle. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jésus fâché, gens de peu de foi. Gloire à Dieu. Ouais, vous l'aurez compris, l'oratoire, peuple du Seigneur, il s'est servi des oiseaux, ou bien du soin que Dieu donne aux oiseaux, vous l'avez vu tout à l'heure, au verset, quoi, c'était le verset 26, il s'est servi de cet exemple-là pour enseigner, eh bien, que nous ne devons pas nous inquiéter, que nous, les enfants du royaume, nous devons, eh bien, être toujours contents, toujours joyeux dans le Seigneur, peu importe, eh bien, et ce que nous traversons comme moment difficile. Là, il met l'accent sur le manger, le boire, la nourriture, le vêtement, mais je vous avais dit la fois passée que, et je viens de vous le dire, que ça concerne tous les aspects de la vie, OK? Alors, bien important de comprendre cela. Maintenant, au verset 28 à 30, vous l'aurez remarqué, il utilise un autre exemple. Il prend une autre illustration, à savoir les lits des champs. Cette fois-ci, pour enseigner l'idée de ne pas s'inquiéter, cette fois, non pas par rapport aux nourritures, mais par rapport aux vêtements. OK? Et il a utilisé l'exemple des oiseaux pour illustrer l'enseignement consistant à dire que nous ne devons pas nous inquiéter par rapport à de quoi nous serons alimentés, nous mangerons. Maintenant, il utilise un autre exemple, les lits des champs, pour enseigner l'idée de ne pas s'inquiéter pour les vêtements. Bon, alors, a remarqué que de nos jours, les deux exemples que Jésus prend en Amérique du Nord, c'est peut-être les deux choses pour lesquelles on pourrait dire que les gens s'inquiètent, devraient s'inquiéter moins, parce que dans certains pays du monde, les gens font plus face à un besoin criant, à la faim même, de nourriture et de vêtements. Contrairement à un pays comme le Canada ou les États-Unis. Mais il faut pas laisser, il faut pas, il faut pas, il faut pas limiter le sujet comme cela. Le sujet est plus large que cela. Un millionnaire peut s'inquiéter pour la nourriture. Quand un millionnaire s'inquiète, au final, c'est pour la nourriture qu'il s'inquiète. Quand un millionnaire s'inquiète, au final, c'est pour les vêtements qu'il s'inquiète. Je dis bien, au final, en dernier ressort, quand on analyse en profondeur. Hein, voyez-vous, donc il faut prendre ça plus large que pour ne pas dire que l'Amérique du Nord n'est pas concernée par cet enseignement-là, parce que de toute façon, il n'y a personne qui s'inquiète pour la nourriture, tout le monde travaille, ou bien tout le monde a ce qu'on appelle un revenu minimum garanti. Il faut prendre ça plus large. OK? Refermons la parenthèse. Alors, les lits des champs, c'est quoi l'oratoire? Peuple du Seigneur. Les lits des champs, eh bien, désignent ou bien représentent une variété de fleurs sauvages. Hein? Les lits des champs que Jésus utilise ici comme exemple pour nous dire de ne pas nous inquiéter des vêtements, eh bien, représentent ou bien désignent des fleurs sauvages qu'on pouvait rencontrer dans les champs et les collines de la Galilée en particulier au moment où Jésus enseignait. Je n'ai pas fait de recherche pour savoir si ça existe encore. Et quel est l'équivalent contemporain des lits des champs? Peut-être qu'il y a des gens dans l'Assemblée qui savent c'est quoi déjà. Et parfois, il y a de ces animaux-là que l'Écriture mentionne, qui ne sont pas les animaux que nous connaissons sous leur nom habituel, sous leur nom quotidien et scientifique de tous les jours. Okay? C'est peut-être le cas pour les lits des champs aussi. Je ne connais pas l'équivalent des lits des champs dans la nature aujourd'hui. Si je me promène au Québec, à la campagne avec vous, je ne peux pas vous dire, ah, voici des lits des champs. Je ne connais pas ça, OK? Mais mes recherches me permettent de déterminer, dans la grâce du Seigneur, que ça représente une variété de fleurs sauvages qu'on pouvait rencontrer dans les champs et les collines de la Galilée à l'époque où Jésus livrait ce discours que nous appelons le sermon sur la montagne. Jésus dit que ces fleurs-là, ou bien les lits des champs, qu'ils considèrent comme étant des décorations, hein, des décorations naturelles, hein, les lits des champs, de par leur splendeur, de par leur beauté, de par leur parure, de par leur couleur, eh bien, les lits des champs représentent, frères et mes sœurs, des décorations naturelles. Hein. Et Jésus dit que ces belles décorations naturelles-là ne font rien pour pousser. Elles ne jouent aucun rôle dans leur parure, elle ne joue aucun rôle dans leur beauté, dans leur splendeur, elle ne joue aucun rôle dans leur couleur. Et malgré qu'elles ne font rien pour être si belles, Jésus dit que, eh bien, leur beauté dépasse, hein, la gloire de Salomon. La gloire de Salomon, ne l'oublions pas, frères et sœurs, la gloire de Salomon, c'est le symbole de la gloire des rois. Oui. La gloire de Salomon, c'est le symbole de la gloire des rois. Jésus compare la splendeur, la beauté, hein, les couleurs des lits des champs, de cette variété de fleurs-là, il les compare à la gloire, il compare leur gloire à la gloire de Salomon, leur beauté à la beauté de Salomon dans sa parure royale. Et Jésus dit, là, ce qui est plus surprenant, en paraphrase, ils ne font rien pour cela. Ah, c'était fantastique de saisir cela. Et ils ne travaillent ni ne filent. Vous travaillez, vous filez, hein, quand vous filez pas. Il y a de grands couturiers, de grandes couturières qui filent pour toi. Pierre Cardin file pour toi. Quel autre grand spécialiste encore? Christian Dior file pour toi, etc. Il y a des hommes et des femmes de Dieu à qui Dieu donne des dons, eh bien, pour filer, pour travailler, pour coudre, hein, des tissus, faire de beaux vêtements, nous en avons dans la congrégation, faire de belles robes pour toi. Mais eux, ils ne filent pas, ils ne travaillent pas. Et pourtant, hein, la gloire, leur gloire, regardez bien ce que Jésus dit. Verset 29, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alors, ce que Jésus considère ici comme étant leur vêtement, comme je l'ai dit, c'est leur parure, ok? C'est leur beauté apparente, hein? Que Jésus considère comme étant leur vêtement. Hein? Bien comprendre cela. Ah! Alors, Jésus va continuer son enseignement, hein? En disant, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, ah, ne vous vêtira-t-il pas plus à plus forte raison? Et là, cette fois, Jésus a ajouté, gens de peu de foi. Ah, Jésus dit, quand on s'inquiète, on manque de foi. Jésus dit, à la lumière de Matthieu 6, verset 30, quand on s'inquiète, c'est un signe de manque de foi. Ah, c'est même un signe de doute. C'est un manque de confiance. Nous avons tous la foi qui sauve. Sinon, on ne serait pas l'enfant du royaume, des enfants du royaume. La foi initiale qui nous mène au salut éternel, on peut la, tout le monde là, à la même, au même niveau. Mais la foi en ce que Dieu peut faire, nous ne l'avons pas tous au même niveau. Il y en a qui en ont plus que d'autres, c'est tout. Il faut bien comprendre cet enseignement-là. Tout le monde a la foi, en termes de foi initiale, qui nous a amenés au salut, à la vie éternelle, à la sanctification, à faire de nous enfants de Dieu, membres de son royaume. Mais en étant dans le royaume, il y en a pour les saluts quotidiens, pour les dons, pour les bénédictions quotidiennes, il y en a qui vont plus faire preuve de foi que d'autres. Ça va toujours être un don de Dieu, mais on sait aussi que ça se cultive dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, dans la communion, dans la fréquentation de l'Église. Plus mon envie de l'Église, plus mon entend des témoignages, plus mon entend prier, plus mon en lit Bible, foi ça lui-même, la grandit lui-même. Foi qui mène au salut, hein? Et pas pour dire son foi, pas non, mais il a besoin de démontrer chaque jour dans les choses quotidiennes, dans les bénédictions quotidiennes. Voyez-vous, ce n'est pas comme deux fois séparés, non, deux fois différents, non, mais oui, ça existe, degré de foi. À plusieurs reprises, nous entendons le Christ, nous voyons le Christ, eh bien, qui fustise des gens par rapport au fait que leur foi dans telle ou telle circonstance a été petite, a été faible, n'a pas été grande ou a été très peu. Donc ça existe, des gens qui ont une grande foi, d'autres qui ont une petite foi. Oui, ça existe, ok? Mais pas quant à la foi qui mène au salut, non, mais par rapport à la foi dans ce que Dieu peut faire pour ceux qui sont dans son salut. Il y en a qui en ont plus que d'autres. C'est comme les non-l'école. Nous tous inscrits. C'est comme à l'école. Nous avons tous été inscrits, nous avons tous été enregistrés à l'école, mais il y en a, eh bien, qui ont 90 sur 100 dans les matières ou dans certaines matières, d'autres qui ont 50, d'autres qui ont 60, d'autres qui ont 70. Ceux qui ont 80, qui ont 50, ils comprennent qu'ils doivent étudier plus, travailler plus pour en avoir davantage. Dans le cas qui nous préoccupe, vous et moi, il ne s'agit pas nécessairement d'étudier plus en termes de à l'école, mais c'est plutôt de prier, de jeûner plus. Seigneur, augmente-nous la foi. Nous, je sens que je m'inquiète trop pour rien. Je m'inquiète que je trouve que je constate que petit critique, je m'inquiète. Viens au secours de ma foi, Seigneur. Ça se demande dans la prière. Quand vous priez pour votre pasteur, vous priez pour que Dieu lui augmente la foi aussi. C'est correct, c'est tout à fait justifié. Moi, quand je prie pour mes fidèles, je prie que Dieu, eh bien, fasse grandir mes fidèles en foi, en amour, en connaissance, en dévouement, en zèle, en sainteté, en intégrité, en douceur, en patience, en. Mais la foi, ça se demande dans la prière. Ça va? Eh bien, je vais me rappeler que je n'ai pas terminé avec les versets 28 à 30. Okay? Mais je voulais vraiment ouvrir cette parenthèse pour expliquer un petit peu l'expression du Christ, gens de peu de foi. Alors, c'était important d'en parler. Mais je reviendrai, cela dit, sur les versets 28, si le Seigneur me prête vie, sur les versets 28 à 30, à la gloire de notre Dieu. Il est 21h précise. C'est ce que je prie que je puisse respecter et l'heure. Eh bien, mais souffrez, la fois passée, je vous ai pas donné la parole. Alors, souffrez que je vous passe la parole. Moi, je n'ai pas enseigné de doctrine proprement dite ici. C'est vraiment une méditation, un texte très connu. Il n'y a pas de point difficile au niveau de l'interprétation biblique. Non, on a jasé ensemble. De l'attitude à adopter devant les difficultés de la vie. Mais qu'à cela ne tienne, il se pourrait que vous ayez une question pareille ou peut-être un témoignage à partager, quelque chose. Moi, je peux apprendre pour ma vie spirituelle. Ça va être le temps de le faire. Et laissez-moi simplement terminer d'arrêter l'enregistrement avant que vous puissiez intervenir pour le faire, à la gloire de notre Dieu.